Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Les débats de panorama jusqu'à 19h avec deux camarades, écrivains, journalistes, appelez-les comme vous voulez. En tout cas, ce sont des gens qui lisent, des gens qui pensent et qui restituent leurs pensées ou en tout cas leurs trouvailles et leurs recherches. C'est le cas de Frédéric Taddeï. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Pierre.
Merci d'être avec nous. Vous publiez toute une série de livres chez Grasset qui s'appelle les Birthday Books. Alors, ça va de 15 à 50 ans, 16 ans, 17 ans, 27 ans, 30 ans, il y en a plein. Et ce sont les moments instantanés de plein de personnalités, ça va de Jules César aux personnalités d'aujourd'hui, avec ce qu'ils font au moment de leurs 30 ans, 20 ans, 33 ans. Bonsoir Nicolas Dessendorf.
Bonsoir Pierre.
Vous publiez Arletty, un cœur libre, chez Kalman Levy, et là aussi, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous regrouper tous les deux ce soir, c'est que il est question... Pas de nostalgie, parce que la nostalgie, c'est peut-être un peu négatif. Il y a un peu de mélancolie. Victor Hugo disait que la mélancolie, c'était la dernière étape avant la tristesse. Et alors, surtout pas de tristesse, que du joyeux ce soir. Nicolas, Arletty, d'ailleurs, elle a quel âge quand elle fait atmosphère Tiens, je vous pose une colle et je pense que Frédéric doit avoir la réponse.
Alors, je sais qu'il peut le dire, mais elle a 40 ans.
Elle a 40 ans.
Ce qui fait qu'en fait, elle a une énorme carrière avant de devenir une star de cinéma, en fait.
Oui, c'est ça qui fait. Et on se rend compte, il n'y a pas qu'Arletty, il y en a d'autres. Mais Arletty, elle explose avec cette phrase qui n'a aucun intérêt, oui, si ce n'est que c'est elle qui l'a dit. Et elle a déjà 40 ans.
Elle a déjà 40 ans, qui, à l'époque, est un âge avancé par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on a 40 ans en 2024, on est presque un jeune ou une jeune fille.
Et absolument. Encore, elle était assez juvénile. Hein. Elle a fait jeune, si je puis dire, physiquement très longtemps, et elle a très très peu changé. Il faut avant attendre sa cinquantaine pour qu'elle commence à changer un tout petit peu.
En tout cas,
elle...
c'était un sexe symbole à l'époque, et c'est un sexe symbole de plus de 40 ans.
Frédéric Taddeï, est-ce que c'est la nostalgie du temps qui passe qui vous a amené à faire tous ces livres que vous écrivez depuis de nombreuses années?
Pas du tout. Moi, j'ai aucune nostalgie, mais en revanche, non, au départ, c'est l'idée de faire le cadeau d'anniversaire idéal. C'est-à-dire de donner aux gens, le jour de leur anniversaire, une sorte de catalogue d'expériences vécues, tout ce que les gens ont connu, ont fait dans tous les domaines, à toutes les époques, à leur âge, et que plus personne puisse leur dire « c'est pas de ton âge » ou « ça n'est plus de ton âge ». Et au départ, c'est ça. Et puis après, en le faisant, je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça, qu'on s'apercevait que, en fait, l'âge est un concept qu'on utilise en permanence dans sa vie quotidienne, mais que les historiens, les biographes n'utilisent pas. Vous pouvez lire un livre entier sans que jamais on vous dise quel âge a Napoléon, au moment où il s'élance sur le pont d'Arcole.
C'est la blague de Coluche, quel âge avait Rimbaud? 16 ans.
Il n'y a pratiquement que Rimbaud 27. Dont on connaît l'âge, oui. Ou Mozart, vous voyez, c'est les deux enfants prodiges. Mais sinon, on ne le dit jamais. Donc, tout à coup, vous vous rendez compte que l'âge, c'est l'angle mort de l'histoire. Et puis après, vous vous rendez compte aussi que ce sont des guides culturels. C'est-à-dire que je pense qu'il va être absolument jouissif pour les gens de 18 ans ou 30 ans ou de 40 ans, grâce à ces livres, de lire les livres qui ont été écrits par des gens de leur âge.
Alors, moi j'ai pris celui de 50 parce que ça me parle.
On en est tous là.
En quelques temps, en tout cas. Et alors, je me dis, c'est formidable parce qu'il y a des... Il y a des choses qui se passent vraiment pour certains, et puis il y en a d'autres qui occupent juste une position. C'est-à-dire que voilà, Michel Houellebecq se lance dans le cinéma, veut réaliser l'adaptation de son roman La possibilité du Nil. Donc là, on peut dire qu'il y a quand même un projet. Et puis il y a de temps en temps une petite perfidie à la Frédéric Taddeï. J'entends bien, on est camarades, c'est gentil ce que je dis, mais par exemple, vous mettez Claire Chazal fait la première interview du nouveau président Sarkozy aux côtés de Patrick Poivre d'Arvor, le père de son fils, devant 11 600 000 téléspectateurs. Donc en fait, c'est pas de la perfidie, mais on apprend, tiens, accessoirement, qu'ils ont un fils ensemble. Quoi, qui était pas forcément...
Vous rigolez, tout le monde le sait. Il n'y a absolument rien dans les Birthday Books qui ne soit pas documenté et officiel.
Oui, il y a des infos. Il y a des gens.
Bien sûr, mais
je pense que vous descendez dans la rue. Je ne sais pas si tout le monde est au courant que Claire Chazal a un enfant avec Patrick Poivre d'Arvor.
Je l'écris comme ça. Tout simplement parce que c'est son point de vue à elle. C'est-à-dire que quand elle est là, en train d'interviewer le nouveau président de la République, elle sait qu'elle est à côté du père de son fils.
Et donc l'interview ne sera pas la même?
Je n'en sais rien, mais pour elle, c'est évident que c'est... Oui, c'est sûrement... franchement, je n'en sais rien. Je ne me mets pas dans sa tête. Je dis juste que à cet âge-là, à 50 ans, voilà ce qui arrive à Claire Chazal, et ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, tout simplement.
Nicolas Destenor.
Bon, je suis en train de lire.
Vous êtes dans quoi là? Vous êtes dans le 17 ans. Qu'est-ce qui vous plaît?
Louis XIV attrape une blénorragie. Ça m'enchante, évidemment. Ah non, mais en fait, il y a un côté presque, disons.
Guy du Routard. Non,
pas du tout. Guy du
Routard. Guy Le Bay.
C'est une espèce d'herbie un peu surréaliste et c'est très poétique parce que ce ne sont que des infos, mais cette espèce d'enchaînement de. C'est très musical, dans l'alternance. Enfin, on a l'impression de. C'est presque une scansion et on apprend des choses et c'est assez hypnotisant, si je puis me permettre.
Vous êtes très aimable. C'est surtout, il faut. Tous ces gens-là, c'est comme s'ils habitaient tous le même quartier. C'est ça ma théorie. C'est qu'en fait, là, j'ai un quartier de la vie. On l'habite tous ensemble, même si ça n'est pas au même moment. Si vous avez 17 ans aujourd'hui, vous ouvrez les Birthday Books, vous sentez une sorte de fraternité sidérale avec tous les gens qui ont eu 17 ans avant vous. Ça communique quelque part, j'en suis persuadé. C'est pour ça que je disais, c'est formidable d'avoir 17 ans, de pouvoir lire les romans qui ont été écrits par des gens de 17 ans, d'écouter la musique qui a été faite par les gens de votre âge. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, au fond. On n'a jamais acheté un disque parce qu'il avait fait ce disque-là à notre âge. Ben là, on peut. Et c'est une expérience, à mon avis, totalement inédite, puisque personne ne nous dit jamais...
Non, alors ça, pour le coup, j'ai vu ça, honnêtement. Donc là, pour le coup, sur l'inédit, je suis tout à fait en accord avec vous. Nicolas Destienne, vous qui avez souvent écrit... sur des personnages-là, en l'occurrence c'est Arletty, mais il y a eu d'autres précédents aussi. Est-ce que l'âge ou le temps qui passe dans la vie de quelqu'un, c'est important pour vous?
Alors oui, surtout je fonctionne par chronologie. Quand je prépare mes biographies, je fais une chronologie, ça s'appelle une chronologie biographique, qui en fait est le plan de mon livre qu'ensuite je vais rédiger, de l'heure zéro, de l'instant zéro de la naissance jusqu'à la mort. Et en fait, il y a un livre dont je me sers depuis toujours qui s'appelle Le journal de la France et des Français chez Gallimard, qui est l'histoire de la France de Clovis jusqu'à l'an 2000, et jour après jour, ce qui fait qu'on sait ce qui s'est passé le 11 juillet 1312. Et je me plonge là-dedans et je trouve ça fascinant. Je suis fasciné par la chronologie, l'enchaînement des faits. Je déteste les choses thématiques, les choses chronologiques. Enfin, moi, quand j'étais petit, j'adorais regarder les frises qu'il y avait, vous savez, dans les cours d'histoire, voir l'évolution. Je trouve ça fascinant de voir justement l'enchaînement des secondes.
Moi aussi, je suis comme ça au départ. Et puis après, quand vous rajoutez l'âge, ça rajoute une dimension. Si je vous prends Napoléon, dans la frise chronologique qu'on connaît tous, en tout cas, tous ceux qui se passionne pour les dates. Napoléon est né en 1769. On sait qu'il a pris le pouvoir en France avec le coup d'État du 18 Brumaire de l'an 7. On sait qu'il a été couronné empereur en 1804. On sait que Waterloo, c'est en 1815 et qu'il part à Sainte-Hélène. Ok, ça c'est les dates. Mais ça dit rien à personne, en fait. À part à nous qui aimons les dates. Si maintenant je vous le fais à l'échelle d'une vie d'homme, c'est-à-dire avec son âge, eh ben Napoléon est devenu général à 24 ans, il a réussi jeune. À 25 ans, ouh là là, ça va plus du tout, il est en prison, il a plus d'argent, il écrit un roman, et il s'imagine pas une seconde que 5 ans plus tard, à 30 ans, il va prendre le pouvoir. Et à 42 ans, il est au sommet. La France compte 130 départements, et il a la mauvaise idée d'envahir la Russie. Et à 45 ans, Napoléon part à Sainte-Hélène. Sa vie est finie à 45 ans. Là, c'est une vie d'homme. Tout à coup, ça parle à tout le monde.
Encore une fois, 45 ans à cette époque-là, monsieur, mais...
Non,
vous parliez de Louis XIV, lui, il a vécu très vieux.
Mais oui, n'oubliez pas...
Malgré sa plénorragie.
L'espérance de vie à l'époque, c'est parce qu'on tient compte de la mortalité infantile, qui est considérable. Mais Voltaire, à cette époque-là, l'espérance de vie, c'est 38 ans, mais Voltaire, il vit jusqu'à 78 ans.
Alors qu'il était malade toute sa jeunesse,
oui,
et qu'il était malin.
Voilà, pareil. Donc on pouvait vivre vieux, simplement il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient jeunes. Maintenant, on était en moins bonne santé que nous, ça c'est sûr, on était moins bien nourris, c'est le cas de Napoléon, mais on vivait vieux.
Est-ce qu'il y a un âge de raison? Est-ce que... 15, ça commence à 15 ans. Pourquoi 15 ans, justement?
Parce que c'est peu documenté avant.
D'accord. C'est pas parce qu'on commence à réfléchir mieux à 15 ans qu'à 12 ou à 7. Ça veut dire, si on prend Mozart...
Moi, en fait, je me suis contenté de glaner toutes ces faits. Et après, les conclusions qu'on peut en tirer sont très diverses. Et j'imagine que les lecteurs en penseront des choses très différentes. Je remarque simplement qu'il n'y a pas d'âge décisif. Il y a des gens qui vont réussir très très jeunes. Et puis après, ils vont échouer. Et puis réussir ou parfois jamais réussir.
Ça, c'est un constat très important.
Voilà.
Parce qu'on dit toujours, à tel âge, tu feras ça, à tel âge, tu feras ça.
Mais je crois que les jeux ne sont jamais faits. en fait, vous pouvez réussir à 50 ans.
Bah, Jean-Philippe Rameau, le compositeur, est devenu compositeur passé 50 ans. Avant, c'était un théoricien de la musique. Il devient un grand compositeur d'opéra passé la cinquantaine, en fait.
On peut changer de vie. Contrairement à Mozart, qui lui a composé dès l'âge de 3 ans.
On peut changer de vie.
Qui était mort plus longtemps.
On peut changer de vie. Et ce qui est vrai pour un compositeur, ce qui est vrai pour Paul Gauguin, qui était trader à la bourse jusqu'à 35 ans.
Oui, ça, franchement.
Et qui se met à peindre vraiment des Gauguins, ceux qu'on aime, qui sont les musées, il ne les peint qu'à partir de 40 ans. Eh bien, on peut être Gauguin quand on est boulanger, quand on est cadre supérieur dans une banque. On va l'adapter à soi-même. Je crois que c'est là où je dis, les jeux ne sont jamais faits et il n'y a pas d'âge décisif.
Comme dirait quelqu'un qu'on connaît ici à Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Exactement.
Je pense que
exactement. Alors ça dépend, encore une fois, ça dépend qui. Mais regardez Michel Houellebecq dont vous parliez. Jusqu'à 40 ans, Michel Houellebecq travaille dans l'informatique.
Oui. Oui, ça l'a marqué d'ailleurs.
Hein. Bon, il en a quasiment fait commerce.
Oui, il en a fait commerce. Ça, Houellebecq, c'est un autre recueil, c'est de l'ami Frédéric Becbédé dans L'égoïste romantique, qui est une série justement de petites phrases et de conversations brèves. Je me souviendrai toujours, c'est j'appelle, parce qu'il écrit j'appelle Michel Houellebecq, je lui dis salut, tu vas bien? Et au bout de 5 minutes de silence, il me répond globalement non. Ça vous pose quand même, oui, Michel Houellebecq. Alors, il y a des choses qu'on apprend dans vos livres. Et alors, ça, c'est encore les petites perfidies à la TDI. Jean-Marie Le Pen. Alors là, c'est toujours le livre des 50 ans. Jean-Marie Le Pen est à la tête d'une coquille vide, le Front National, qui compte très peu d'adhérents et dont les finances sont désastreuses.
Oui, c'est, mais lisez ce qui est juste après. C'est un fait, parce qu'il faut le voir en miroir.
Parce qu'il y a Marine Le Pen qui exulte.
Elle a 50 ans, Marine Le Pen, en revanche, exulte. Et pourquoi elle exulte? Parce que c'est là où elle remporte triomphalement les élections européennes. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen.
C'est le miroir.
C'est qu'on peut comparer.
J'avoue que je n'avais pas lu en dessous.
Ouais. Et c'est d'autant plus intéressant qu'ils n'ont pas la même vie. Lui, à 50 ans, il a l'impression qu'il ne se passera rien. Et elle, au contraire, à 50 ans, elle triomphe. Mm. Ce n'est pas la même vie.
Vous aviez quel âge pour Les Orphelins du Mal, Nicolas Descendeur?
2007, donc j'avais 32 allant sur 33.
Et alors, est-ce qu'il s'est passé 33? Intéressant.
Christique, absolument.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à vos 33 ans? Parce que ça a été quand même un livre majeur.
C'est de tous mes livres, c'est celui qui a le mieux marché. Ce qui s'est passé, non, écoutez... il s'est rien passé d'étonnant. Je me suis marié un an plus tard. À 33 ans, je sais pas.
Bah, il a publié son premier livre. C'était pas le premier, Les Orphelins du Mal.
Celui qui a vraiment accéléré la carrière.
C'est l'âge où Michel-Ange, qui était sculpteur, hein, je le rappelle, commence à peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Voilà. 33 ans.
Oui, alors tout de suite, ça.
Il y a du Michel-Ange en vous.
Voilà, je me disais bien. Ça fait des années que ma mère m'en parle.
Oui, mais c'est pour ça qu'elle vous a offert ce tricot qui ressemble un peu. Les couleurs sont un peu Michel-Ange.
C'est un petit côté des chiens, j'assume.
J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, c'est vous qui le dites. Alors, Arletty, elle dit mon cœur est français et mon cul est international. Alors, elle a quel âge quand elle dit ça?
En fait, elle ne l'aurait pas dit. C'est sans doute Henri Janson qui le lui aurait prêté, et elle-même a toujours été assez floue là-dessus. Non, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs.
On rappelle qui est Henri Janson.
Henri Janson, scénariste, dialoguiste et l'auteur de la réplique Atmosphère, qu'elle a toujours refusé de dire, parce qu'en fait on l'a tellement emmerdé toute sa carrière, et donc elle l'a répété pendant un an, et puis après c'était la réplique qu'elle refusait de dire quand on lui demandait faites la nouvelle, et en public elle l'a fait une seule fois sur la scène du théâtre de l'Odéon.
Il faut savoir monétiser ces choses-là.
Elle n'était pas très bonne en affaires.
Gérard Lenormand, qui a fait La Balade des gens heureux, me racontait toujours qu'après, alors à la fin de sa carrière, il donnait des galas. Donc on pouvait le louer, entre guillemets, pour une fête, une communion, une bar mitzvah, que sais-je. Et alors il disait, voilà, bah, c'est 10 000. Par contre, s'il y a La Balade des gens heureux, c'est 20 000. Donc ça passait du simple au double.
Donc, mais à propos d'Arletty, il y a cette phrase très très belle de Jacques Prévert qui disait si vous lui demandez d'être une reine, elle est une reine. Si vous lui demandez d'être une pute, elle est une pute. Il faut lui demander poliment.
C'est admirable.
C'est le plus beau compliment, je pense, qu'on puisse faire à une actrice.
Et il était, de façon platonique, mais fou amoureux d'Arletty. C'est pour elle qu'il a pensé, en fait, Les Enfants du Paradis. Elle est le seul personnage fictif d'une toute une tribu de personnages réels. Et voilà, c'est la femme qu'il a le plus fasciné.
De quelle façon Nicolas Descendeurs, alors qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur la souveraineté nationale, sur la place de la France dans l'Europe, de quelle manière Arletty est archi ou archi-archi française?
Archi française. Oh, alors là, on le voit, vous avez deux heures. Vous avez deux heures développées. Archi française.
Pourquoi est-ce qu'elle est tellement un porte-drapeau? Elle pourrait là, si elle vivait deux jours, elle pourrait aller porter la flamme olympique ou le drapeau français aux futurs Jeux Olympiques.
Jusqu'à un certain point, c'est-à-dire, Arletty n'aurait pas eu ses amours malheureuses entre guillemets pendant l'occupation. On sait qu'elle a été folle amoureuse d'un officier allemand.
Et après, ça a continué.
Ça a duré jusqu'au début des années 50.
Mais il essaie de minimiser.
Il n'y aurait pas eu cette histoire-là. Elle serait aujourd'hui une des figures tutélaires du féminisme, de la liberté des femmes et tout ça, parce qu'elle était d'une liberté absolument incroyable, liberté de ton, de corps, d'esprit. Elle était bisexuelle de façon totalement assumée. Et c'est quelqu'un qui suivait son instinct, son goût de la liberté, son goût de l'audace. C'était pas quelqu'un qui était carriériste. Elle est arrivée au théâtre par hasard. En fait, c'est des rencontres qu'elle a fait souvent dans la rue. Elle rencontre un jour Paul Guillaume, le marchand d'art, et les boulevards des Capucines, qui lui dit, mademoiselle, vous devriez faire du théâtre, comme ça. Et il lui dit, écoutez, regardez, il y a le théâtre des Capucines en face. Prenez un Bristol avec mon nom et allez vous présenter au directeur. Et elle y va au culot et elle devient grisette dans des revues. Et petit à petit, elle a grimpé. C'est pour ça que sa carrière a été très longue à se mettre en place. Elle a commencé vraiment comme toute cette génération, comme Rému, comme Jouvet, tous ces gens-là disaient le théâtre, c'est notre vie et le cinéma, c'est notre argent de poche. Mais Arletty, est-ce que c'est l'incarnation de la femme française, en tout cas d'une certaine France? Parce que quand j'en parle aujourd'hui, Arletty, quand je dis que je me suis lancé dans une biographie d'Arletty, les moins de 40 ans, encore une date, verse un œil rond, parce que quand même disons que la culture générale a été un peu arasée par les plateformes de streaming.
C'est ça que vous avez essayé de faire. Vous avez essayé justement de rappeler les gens à l'ordre en disant, tiens, il faut que vous connaissiez Arletty, je vais vous en parler.
J'ai essayé de l'incarner parce que c'est une biographie romanesque, c'est au jeu, c'est comme des mémoires apocryphes. J'ai fait, comment dire, un biopic, sauf que je n'ai pas mis en scène, j'ai mis en mots.
Ça coûte moins cher.
Ça coûte beaucoup moins cher et il n'y a pas de problème. Oui, il y a une liberté complète.
C'est ce que dit souvent Guillaume Musso dans ses romans. On a tout le loisir de raconter qu'on est au bout du monde avec une voiture de sport à tel prix, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin de le faire pour un film.
La liberté absolue des romanciers. On a droit de vie et de mort sur nos personnages. On peut faire exploser les systèmes solaires.
Vous avez encore droit de vie et de mort, mais attention.
Avec les sensitivity readers, oui, je sais, mais bon. Nous sommes encore dans une petite bulle protégée, ça ne durera pas, mais parce que comme les gens lisent peu, on va moins s'embêter avec les livres. Mais Arletty est une figure à la fois que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît. Tout le monde vous dira, Arletty, Atmosphère, éventuellement les Enfants du Paradis, basta cosi. Alors qu'il y a une vie extraordinaire.
Je rebondis, Frédéric Taddeï, sur ce que disait Nicolas à propos de cette personne qui lui dit, vous devriez faire du théâtre. Vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit, vous devriez faire de la télévision?
On me l'a dit, oui, quand je suis passé à la télévision la première fois, que j'avais 18 ans. Parce qu'il se trouve que j'ai fait deux phrases et le lendemain, on en parlait dans tous les journaux. Alors, on dit, vous devriez faire de la télévision. Mais j'y ai plus pensé jusqu'à l'âge de 33 ans, en fait. C'est à 33 ans que je me suis mis à faire de la télévision.
Et c'était quoi cette émission? Et qu'est-ce que vous avez dit?
C'était le débat des dossiers de l'écran qui suivait la projection de Holocaust, la série à l'époque. Et j'avais dit quelque chose dans l'émission qui avait fait beaucoup de bruit. C'est un peu long à raconter.
Mais c'est-à-dire que vous avez été un peu.
Poil à gratter?
Poil à gratter,
oui. Un peu.
Bon, bah, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes poil à gratter, mais en tout cas, vous faites une apparition hitchcockienne.
Ah oui, dans chaque livre.
Dans chaque livre.
Il y a un caméo à chaque fois.
Et alors, à 50 ans, vous animez Ce soir ou jamais en quotidienne sur France 3, Dardard sur France 2. Ça, c'était. Ça existe toujours, ça, ou pas?
Parce que je crois pas, non.
Parce que c'était quand même vachement bien, c'est de savoir l'histoire d'un tableau juste avant le journal de 20h et regarde les hommes changer sur Europe 1, dont on se souvient, évidemment. Et pourquoi ne pas se faire l'économie de société?
Je me suis dit d'abord...
C'est l'éditeur qui vous a dit, il faut que...
Non, c'est moi l'éditeur, je suis co-éditeur avec Grasset, donc... Non, c'était de jouer le jeu. Et puisque je mets les autres, autant me mettre aussi. Il y a Laurent Ruquier, il y a Thierry Ardisson, il y a Michel Drucker... il est tout à fait logique que je me mette aussi.
Et puis aussi, si vous le dites.
Et puis aussi que de montrer que, parce que ça arrive à des tas de gens aujourd'hui, entre 19 ans et 29 ans, j'ai pris 10 ans de vacances. Moi. Donc il y a beaucoup de livres dans lesquels on dit.
C'est juste, pour ça que vous n'en prenez
Frédéric
pratiquement Taddeï, plus.
Le futur créateur des Birthday Books ne fait rien. Et ce qui était vrai, je ne faisais rien.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne prenez plus de vacances.
C'est pour ça que je ne prends plus de vacances. Et puis comme je ne faisais pas rien, je me suis intéressé à des tas de trucs, je peux les mélanger aujourd'hui dans des livres comme ça.
Mais oui.
J'ai fait mes universités, au fond.
Ah, tout seul, hein, en autodidacte.
Tout seul.
Quelle est, dans tous les livres, l'anecdote qui vous a la plus marquée?
Oh, il y en a tellement. C'est impossible, mais... Mais là où vous êtes surpris surtout, c'est par exemple, on parlait de 50 ans. C'est à 50 ans que Gandhi voit son programme de lutte non violente adopté par le Parti du Congrès. Et il vient juste de revenir vivre en Inde. C'est à 45 ans que Gandhi revient vivre en Inde, après 22 ans en Afrique du Sud. Donc c'est le Gandhi que nous connaissons tous, c'est un Gandhi de 45 ans, et à 50 ans, ça y est, la non-violence, Gandhi est devenu Gandhi. On devient Gandhi à 50 ans. Pas à 25.
C'est devenu Gandhi à 50 ans, Nicolas Descendeur.
Ce sera en septembre prochain. Je vais pas me raser le crâne.
On fêtera ça ensemble. Oui, vous êtes vrai. De septembre aussi.
Ben oui.
Ben voilà.
Oh.
Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait à 50 ans ? Vous avez une idée ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie ?
Récemment, oui, mais pour des raisons purement personnelles.
ça ne nous regarde pas,
ça,
comme dirait l'autre.
C'est pas bien intéressant. Écoutez, je publie un roman à la rentrée, qui sera mon 35e livre, donc ça fait des chiffres assez ronds.
35 voilà. Livres en quoi ? En 30 ans d'écriture, à peu près ?
23, 24, mais je suis un petit peu compulsif.
Vous en avez fait plusieurs par an.
Ça m'arrive parfois, oui. Je suis un petit peu compulsif.
Compulsif, pas que sur l'assiette, donc du coup.
Dès que je peux dévorer, je dévore.
Est-ce que Frédéric Taddeï, le courrier des lecteurs qui pourra être édité avec ceux qui feront les appendices de tous ces birthday books.
Oui, pourquoi pas, éventuellement. Petit détail amusant pour finir, c'est là où je me suis dit, mais c'est vraiment l'âge, c'est l'angle mort. C'est quand je me suis aperçu que Lee Harvey Oswald, dont on sait tous que le 22 novembre 1963 à Dallas, il tire sur le président Kennedy, mais il a quel âge ? Il avait 24 ans.
Mais ça vous paraît jeune ou ça vous paraît...
Mais oui, parce qu'il faut voir ce qu'on a pu dire sur Lee Harvey Oswald et ce qu'on en pense aujourd'hui encore. On connaît tous les images, y compris la photo de son où il est tué le lendemain par Jack Ruby. À l'époque, on pensait que c'était un colonel du KGB. Vous voyez, ce type a 24 ans. Et avant ça, il est quand même parti en URSS, il a vécu en URSS, il a épousé une femme russe, il est revenu. Enfin, il lui est arrivé plein de trucs. Il n'a quand même que 24 ans.
Les birthday books par Frédéric Taddeï chez Grasset et Arletty. Un cœur libre chez Calman Lévy par Nicolas Descendorf. Merci à vous deux et bonne soirée.
Merci Pierre.